Les programmes de Studio Kalangou, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le journal de ce jeudi 18 juin 2020. Nafissa Adam Sirfo au micro. Un mort et un blessé, c'est le bilan d'une attaque menée hier par des personnes armées contre deux bus des compagnies de transport Rimbo et Sonef. C'était hier nuit à 80 km d'Agadez. Hausse des prix de condiments sur certains marchés de la capitale, le constat dans quelques instants. À suivre dans le magazine de ce journal, une analyse d'un chercheur de l'ONG International Crisis Group sur l'occupation par les groupes armés de l'espace sahélien. Sept individus armés sur trois motos ont intercepté hier nuit vers 21h deux bus des compagnies de transport Rimbo et Sonef à 80 km d'Agadez entre Tigrouit et Bab Salam. On déplore un mort et un blessé parmi les passagers de Rimbo et un autre blessé parmi les passagers de Sonef. Tous ont été dépouillés de leurs biens. Écoutons le témoignage d'Amadou Mokhtar, chauffeur du bus Sonef, victime de l'attaque.
C'était entre l'embranchement de Tigirou sur la déviation. Il faisait nuit. Arrivé sur l'axe, j'ai constaté qu'un camion Telem bloquait le passage de la déviation. Un bus de la compagnie Rimbo, dont tous les coffres sont ouverts et les bagages par terre. Je me suis arrêté au milieu de la route pour savoir est-ce une panne. Et brusquement, j'ai vu une personne surgir et se placer devant le bus Rimbo. Et il a tiré sur moi. La balle a fleuré mon épaule pour atteindre une femme. Ensuite, les coupeurs se sont rués sur nous et ont demandé à tout le monde de descendre. Nous sommes descendus, ils nous ont fouillés et ils ont dit qu'il y a des gazines dans ce véhicule. Ils ont cette information depuis Tawa. Il faut qu'on leur montre ces gazines, sinon ils vont nous tuer tous. Je leur ai dit que les douaniers les ont confisqués. Ils étaient quatre, deux motos à côté et une troisième moto faisant des va-et-vient. Ils avaient trois Kalachnikov, trois sont armés, ils ont récupéré des sacs. Une personne dans le bus de Sonef a été blessée et dans celui de Rimbo, deux victimes. Un vieillard décédé et une autre personne blessée au bras.
Des propos recueillis par Moussa Maman, notre correspondant à Agadez. En bref, au Mali, deux sous-préfets ont été enlevés hier dans la préfecture de Diré, située dans la région de Tambouctou, rapporte le site de RFI. Selon les témoins, près de 10 hommes armés à bord d'un véhicule pick-up sont arrivés dans la localité. Ils ont pris la direction de la préfecture de Diré où ils ont contré le sous-préfet central Sidia Koulibaly et le sous-préfet d'une commune rurale voisine à monter à bord d'un véhicule officiel. Un caporal de l'armée malienne est également enlevé, indique la même source. À Niamey, sur certains marchés de la capitale, l'on constate une hausse des prix de condiments. Cette cherté n'est pas sans conséquence sur le panier de la ménagère. Pourquoi ces produits sont-ils chers à Niamey? Plus de précisions dans ce reportage de Salamat Kadri.
Un tour dans certains marchés de Niamey, le constat est le même, la cherté des condiments. Selon les vendeurs rencontrés, cette hausse est directement liée au coût du transport car la majorité de ces denrées est importée.
Les légumes sont devenus chers parce qu'il n'y a pas ceux qui sont produits ici au Niger, tels que la pomme de terre. C'est importé du Maroc, des Pays-Bas ou encore de la Tunisie. C'est normal que les prix augmentent. La carotte également, on ne trouve pas la production locale. Ça vient du Nigeria. Le poivron est importé du Burkina Faso. Même les choux est importé du Nigeria.
Le sac d'oignons coûtait 5 000 francs. Actuellement, nous le payons à 10 000 francs. Avant, le prix du seau de piment varie entre 1 000 francs à 1 250 francs. Aujourd'hui, nous l'achetons à 2 500 francs CFA. Le seau du poivron coûtait 1 000 francs. Présentement, nous le prenons à 2 000 francs.
Une hausse des prix également confirmée par les clientes qui dénoncent la situation.
Les produits sont un peu chers. Je dirais que ce n'est pas vraiment à la portée du pauvre citoyen nigérien. Vraiment, c'est déplorable.
Les condiments sont chers, ils sont rares, on n'en trouve presque plus. Avant le ramadan, la pomme de terre qu'on achetait à 300 francs le kilo est revenue à 600 francs. L'oignon, n'en parlons pas, la tomate fraîche, elle a complètement disparu. L'unité, c'est à 100 francs. De cette façon, quel prix débourser pour avoir assez pour une bonne sauce?
En attendant une éventuelle baisse des prix, la population de Niamey n'a d'autre choix que de prendre son mal en patience.
Environ 115% de la totalité des terres de la planète sont dégradées et cette transformation se poursuit à un rythme de plus en plus soutenu au Niger. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Environnement hier à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la désertification célébrée chaque 17 juin. Pour faire face à cette dégradation, le responsable des jeunes volontaires pour l'environnement du Niger recommande entre autres de planter beaucoup d'arbres et de les entretenir. Sani Ayouba, que je vous propose d'écouter.
Aujourd'hui, la désertification, ce n'est pas seulement l'avancée du désert. Quand on voit la dégradation des terres, c'est des phénomènes qui ne sont pas que naturels. C'est vrai que c'est naturel, mais aujourd'hui, c'est accentué par rapport à l'effet de l'homme. Aujourd'hui, on détruit les arbres comme jamais. Le Niger a entrepris quand même des initiatives, des politiques, voire même des stratégies par rapport à la gestion durable des terres, qui permet de récupérer les terres dégradées, qui permet également de lutter efficacement contre cette dégradation des terres, ce qui est une bonne chose pour l'ensemble des paysans ou en tout cas de ceux qui dépendent de l'agriculture, c'est-à-dire le milieu rural, ils sont 10% de la population. Donc je pense que nous devons revoir cette mode de consommation en faisant en sorte que notre consommation énergétique dépende moins des arbres. Faire en sorte que nous plantons suffisamment d'arbres, pas seulement planter mais surtout entretenir pour que nous puissions recouvrir le couvert végétal comme on dit et les terres restaurées doivent être exploitées et suivies.
Malgré la persistance des vols de bétail et autres enlèvements, les agriculteurs de la commune de Safo, de la région de Maradi, vaquent à leurs travaux champêtres. Sur les 77 villages que compte la commune, 21 ont déjà semé. Pour le maire Issa Hiro Kokino, ces agriculteurs doivent rentrer à la maison avant la tombée de la nuit pour éviter de rencontrer des malfrats. Il est au micro de Mohamed Maman.
Ce sont des bandits qui viennent la nuit en complicité avec les gens du village parce qu'ils font les choix. Ils choisissent là où ils vont voler les bétails.
Comment ces populations voient qu'à leurs travaux champêtres?
Nous, on va sensibiliser la population dès qu'ils aillent au champ. Il ne faut pas trop tarder jusqu'à la nuit, comme ils faisaient avant. Les gens ont commencé à semer. Par exemple, les voleurs là, ils font peur que vraiment cette année, ils ne font pas la culture. Non, ce n'est pas vrai.
Justement parce que certains disent qu'il y a des villages même qui décident de ne pas semer par crainte.
Non, moi, j'ai une petite information là. Tous les villages là où les voleurs là ont semé. La campagne se sent progressivement parce qu'il y en a les 77 villages qui sont dans la commune de Safo. Les 21 villages qui ont semé avant. Et ce sont des villages loin de la commune de Safo, là où le problème se produit.
En bref, au niveau de la CEDEAO, le taux de croissance économique initialement prévu à 3,3% en 2020 baissera à moins 2,1% si la pandémie persiste jusqu'à la fin de l'année, induisant notamment une baisse des recettes fiscales et un accroissement du chômage et de la pauvreté. C'est ce qu'a indiqué hier à Niamey le président nigérien Issoufou Mahamadou, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO au cours du sommet virtuel Chine-Afrique sur la COVID-19. Face à cette situation, le président plaide pour un plan Marshall de type nouveau pour l'Afrique dans l'objectif de relancer l'économie du Niger. Toujours en bref, au Niger, sur 115 personnes testées hier, 4 nouveaux cas positifs à la COVID-19 ont été enregistrés, selon le communiqué officiel du ministère de la Santé publique publié hier mercredi 17 juin. Tous sont des cas importés, ce qui amène le nombre de patients testés à 5656, dont 1020 déclarés positifs, 893 guéris, 60 en cours de traitement et 67 décès, souligne le communiqué. Dans le cadre de notre série sur la voie de l'amour chez les jeunes au Niger, écoutant le témoignage de Cheb Moussa, âgé de 18 ans, il vit à Niamey et est interrogé par Rukayatou Abdrahman.
Je me présente Cheb Moussa, j'ai 18 ans, je suis en classe de 5e B, je suis de Niamey. Je pense que c'est à l'âge de 14 ans que j'ai rencontré ma première copine. Ça s'est passé un peu, lorsque je l'ai vu. J'ai senti quelque chose. Et carrément, je partais, elle a dit ce que je sentais dans mon cœur. Le premier jour, elle m'a dit que je l'ai laissé pour partir réfléchir. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. J'attends. Je ne prends pas beaucoup de temps. Le deuxième jour, elle a dit oui. J'ai dit, moi, je t'aime beaucoup. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Et on a duré pour faire. Je pense que c'est un an qu'on a fait ensemble. Dans les 2 ans, elle m'a trahi. Moi, j'aimerais me marier à 20 ans.
Les jeunes témoignent. Une production de Studio Kalongo.
Chers amis jeunes, bonjour. Nos parents nous adorent, ils nous éduquent et ils nous payent beaucoup de jus. Pour toutes ces raisons, aidons-les à prévenir cette grave maladie qui est le coronavirus. Chers amis jeunes, la maladie du coronavirus n'épargne personne. Enfants comme grands, nouveau-nés comme vieillards, alors il faut toujours laver vos mains à l'eau et au savon ou utiliser du gel hydroalcoolique. Il faut toujours éternuer ou tousser dans le creux du coude. Il faut éviter les attroupements. Il faut mettre au moins 1 mètre de distance entre vous et les autres. Mettre toujours les mouchoirs utilisés dans une poubelle. Chers amis jeunes, si vous respectez ces consignes, vous allez vous aider. Aidez vos parents à faire face à la maladie du coronavirus. Mes amis, le coronavirus ne demande pas ton âge pour t'attaquer. Donc, il faut se prévenir.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
À présent, le magazine de ce journal au Sahel, on assiste à ces derniers temps à la multiplication des groupes armés non étatiques dans la bande sahélienne, avec notamment des affrontements entre eux. Selon Ibrahim Yahya de l'ONG International Crisis Group, les divergences idéologiques sont à la base des rivalités entre ces différents groupes armés dans l'espace sahélien. Ibrahim Yahya, chercheur à l'ICG, explique au micro de Alassane Abdou.
Ni la pauvreté, ni la religion ne sont des facteurs déterminants du phénomène du djihadisme au Sahel. D'ailleurs, les zones qui sont affectées par ce phénomène djihadiste ne sont pas nécessairement les plus pauvres de la sous-région. Et les individus qui sont enrôlés dans ce groupe ne sont pas nécessairement les plus démunis. D'ailleurs, plusieurs études montrent que parmi les djihadistes, on trouve des gens qui sont riches et des gens qui sont pauvres. On trouve aussi des lettrés et des analphabètes. On trouve aussi des religieux et des gens qui ne sont pas aussi religieux que ça. Mais le dénominateur commun de ce groupe est qu'ils émergent dans des zones rurales où règne déjà une situation d'insécurité et de conflit. Donc, a priori, des zones qui sont délaissées par le pouvoir public. Et c'est ce qui nous fait dire, nous, à Crashus Group, qu'en général, les djihadistes exploitent des situations de conflit déjà existants auxquelles ils donnent un habillage religieux. Et donc, ils profitent beaucoup du manque de présence de l'État dans ces zones-là.
Depuis un moment, ces organisations se font la guerre. Pourquoi ces guerres entre ces organisations?
Vous avez raison d'évoquer les récents affrontements entre le groupe djihadiste d'obédience Al-Qaïda et ceux qui sont plutôt affiliés à l'État islamique. Il faut déjà dire que ces affrontements ne sont pas anodins. Partout au monde où ce groupe cohabite ensemble, ils se sont affrontés. Et de ce point de vue, le Sahel est considéré comme une exception, car ce groupe ont cohabité ensemble, mais ils ne se sont affrontés que récemment. Alors, pourquoi des affrontements maintenant? Il faut déjà dire qu'il y a des divergences idéologiques de taille entre ce groupe. Un exemple de ces divergences est la définition que ce groupe donne du mécréant, celui-là qui constitue la cible légitime du djihad. Al-Qaïda prône une définition restrictive du mécréant, en ce sens qu'elle se focalise uniquement sur l'ennemi externe. Seul le mécréant externe aux sociétés musulmanes, notamment les occidentaux, peuvent être des cibles légitimes du djihad. ISIS, par contre, prône une définition un peu plus élargie, en impliquant les musulmans qui, par leur comportement, commettent des actes de mécréance. Mais au-delà des divergences idéologiques, les récents affrontements au Sahel sont plutôt dus aux difficultés que rencontre ce groupe dans la gestion des espaces qui sont tombés sous leur contrôle. Donc c'est surtout des problèmes de gouvernance. Dans les Massinas au centre du Mali, par exemple, c'est la question de Bourgoutière, ces pâturages très convoités par les bétails. Et au-delà des problèmes de gouvernance, il y a aussi le problème de leadership entre différents leaders djihadistes qui ne s'entendent pas.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout de suite dans le forum de Studio Kalangou sur le rôle que jouent les artistes nigériens dans la lutte contre le coronavirus. On écoute. Studio
Kalangou. Tous les jours, écoutez les programmes du Studio Kalangou sur les ondes de nos radios partenaires.
Et sur WhatsApp au 80 06 88 54 à partir de 17h.
N'oubliez pas nos rendez-vous hebdomadaires.
Lundi, nous abordons une question de droit dans la partie magazine.
Mardi, suivez le magazine Bien-être à la fin des journaux et le forum Espace Femmes à 18h15.
Ne manquez pas le forum de la presse du vendredi pour le décryptage de l'actualité de la semaine.
Samedi et dimanche, place à l'actu des jeunes à partir de 17h, suivi de Tous à la Fada.
Et Studio Kalangou au rythme du Niger.